Victor Hugo, Zim Zidzimi. Zim Zidzimi, Soudan d'Égypte, commandeur des croyants, padishah qui dépasse en grandeur le César d'Allemagne et le sultan d'Asie, maître que la splendeur énorme rassasie, songe. C'est le moment de son festin du soir. Toute la table fume ainsi qu'un encensoir. Le banquet est dressé dans la plus haute crypte d'un grand palais bâti par les vieux rois d'Égypte. Les plafonds sont dorés et les piliers sont peints. Les buffets sont chargés de viandes et de pains et de tout ce que peut rêver la faim humaine. Un roi mange en un jour plus qu'en une semaine le peuple d'Ispahan, de Byzance et de Tyr. Et c'est l'art des valets que de faire aboutir la mamelle du monde à la bouche d'un homme. Tous les mets qu'on choisit, tous les vins qu'on renomme sont là, car le sultan Zidzimi boit du vin. Il rit du livre austère et du texte divin que le derviche triste, humble et pâle vénère. L'homme sobre est souvent cruel, et d'ordinaire l'économe de vin est prodigue de sang. Mais Zim est à la fois ivrogne et malfaisant. Ce qui n'empêche pas qu'il ne soit plein de gloire, il règne. Il a soumis la vieille Afrique noire, il règne par le sang, la guerre et l'échafaud, il tient l'Asie ainsi qu'il tient l'Afrique. Il faut que celui qui veut fuir son empire s'exile au nord, en Thrace, au sud, jusqu'au fleuve Baxil. Toujours vainqueur, fatal, fauve, il a pour vassaux les batailles, les camps, les clairons, les assauts. L'aigle, en l'apercevant, crie et fuit dans les roches. Les Rajas de Mysore et d'Agra sont ses proches, ainsi qu'Omar qui dit « Grâce à moi, Dieu vaincra ». Son oncle est Aïradin, sultan de Bassora. Les grands tchèques du désert sont tous de sa famille, le roi Doud et son frère, et l'épée et sa fille. Il a dompté Bagdad, Trébizonde et Mossul, que conquit le premier Duilus, ce consul qui marchait précédé de flûtes tibicines. Il a soumis Gofna, les forêts abyssines, l'Arabie où l'aurore a d'immenses rougeurs, et l'Hedjaz où le soir, les tremblants voyageurs, de la nuit autour d'eux sentant rôder les bêtes, allument de grands feux, tiennent leurs armes prêtes, et se brûlent un doigt pour ne pas s'endormir. Mascate et son iman, la Mecque et son émir, le Liban, le Caucase et l'Atlas font partie de l'ombre de son trône, ainsi que la Siti et l'eau de Nagaïn et le sable d'Ophir, et le Sahara fauve où l'oiseau vert Asphyr vient becqueter la mouche au pied des dromadaires. Pareils à des vautours forcés de changer d'air, devant lui 20 sultans reculant, hérissés, se sont dans la fournaise africaine enfoncés. Quand il étend son sceptre, il touche aux âpres zones où luit la nudité des fières Amazones. En Grèce, il fait lutter chrétiens contre chrétiens, les chiens contre les porcs contre les chiens. Tout le craint. Et sa tête est de loin saluée par le lama debout dans la sainte nuée, et son nom fait pâlir parmi les casse-bures d'art le Sophi devant qui flotte sept étendards. Il règne, et le morceau qu'il coupe de la terre s'agrandit chaque jour sous son noir cimetière. Il foule les cités, les achète, les vend, les dévore. À qui sont les hommes, Dieu vivant ? À lui, comme la paille est au bœuf dans l'étable. Cependant, il s'ennuie. Il est seul à sa table, le trône ne pouvant avoir de conviés. Grandeur, bonheur, les biens par la foule enviés, l'alcôve où l'on s'endort, le sceptre où l'on s'appuie, il a tout. C'est pourquoi ce tout-puissant s'ennuie. Ivre, il est triste. Il vient d'épuiser les plaisirs. Il a donné son pied à baiser au vizir. Sa musique a joué les fanfares connues, des femmes ont dansé devant lui toutes nues. Il s'est fait adorer par un tas prosterné de tchèques et d'oulémas décrépits, étonné que la barbe fût blanche alors que l'âme est vile. Il s'est fait amener des prisons de la ville deux voleurs qui se sont traînés à ses genoux, criant grâce, implorant l'homme maître de tout, agitant à leurs poings de pesantes ferrailles, et curieux de voir s'échapper leurs entrailles. Il leur a lentement lui-même ouvert les flancs. Puis il a renvoyé ses esclaves, bâillant. Zim regarde, en sa molle et hautaine attitude, cherchant à qui parler dans cette solitude. Le trône où Zidzimi s'accoude est soutenu par 10 sphinx au front ceint de rose, au flanc nu. Tous sont en marbre blanc, tous tiennent une lyre. L'énigme dans leurs yeux semble presque sourire. Chacun d'eux porte un mot sur sa tête sculptée, et ces 10 mots sont gloire, amour, jeu, volupté, santé, bonheur, beauté, grandeur, victoire, joie. Et le sultan s'écrie : Ô sphinx dont l'œil flamboie, je suis le conquérant, mon nom est établi dans l'azur des cieux, hors de l'ombre et de l'oubli, et mon bras porte un tas de foudre qu'il secoue. Mes exploits fulgurants passent comme une roue. Je vis, je ne suis pas ce qu'on nomme un mortel. Mon trône vieillissant se transforme en autel. Quand le moment viendra que je quitte la terre, étant le jour, j'irai rentrer dans la lumière. Dieu dira : Du sultan je veux me rapprocher. L'aube prendra son astre et viendra me chercher. L'homme m'adore avec des faces d'épouvante, l'orgueil est mon valet, la gloire est ma servante. Elle se tient debout quand Zidzimi s'assied. Je dédaigne et je hais les hommes, et mon pied sent le mou de la fange en marchant sur leur nuque. À défaut des humains, tous muets, tous eunuques, tenez-moi compagnie, ô sphinx qui m'entourez, avec vos noms joyeux sur vos têtes dorées. Désennuyez le roi redoutable qui tonne, que ma splendeur en vous autour de moi rayonne. Chantez-moi votre chant de gloire et de bonheur, ô trône triomphal dont je suis le seigneur. Parle-moi, parlez-moi, sphinx couronné de roses. Alors, les sphinx, avec la voix qui sort des choses, parlèrent. Tels ces bruits qu'on entend en dormant. Le premier sphinx. La reine Nitocris, près du clair firmament, habite le tombeau de la haute terrasse. Elle est seule, elle est triste. Elle songe à sa race, à tous ses rois, terreur des Grecs et des Hébreux, dur, sanglant et sorti de son flanc ténébreux. Au milieu de l'azur, son sépulcre est farouche. Les oiseaux tombent morts quand leurs ailes le touchent. Et la reine est muette, et les nuages font sur son royal silence un bruit sombre et profond. Selon l'antique loi, nul vivant, s'il ne porte sur sa tête un corps mort, ne peut franchir la porte du tombeau, plein d'enfer et d'horreur pénétrée. La reine ouvre les yeux la nuit, le ciel sacré apparaît à la morte à travers les pilastres, son œil sinistre et fixe importune les astres, et jusqu'à l'aube, autour des eaux de Nitocris, un flot de spectres passe avec de vagues cris. Le deuxième sphinx. Si grands que soient les rois, les pharaons, les mages qu'entoure une nuée éternelle d'hommages, personne n'est plus haut que Téglath-Phalasar. Comme Dieu même à qui l'étoile sert de char, il a son temple avec un prophète pour prêtre. Ses yeux semblent de pourpre étant les yeux du maître. Tout tremble et sous son joug redouté, le héros tient les peuples courbés ainsi que des taureaux. Pour les villes d'Assur que son pas met en cendres, il est ce que sera pour l'Asie Alexandre, il est ce que sera pour l'Europe Attila. Il triomphe, il rayonne, et pendant ce temps-là, sans savoir qu'à ses pieds toute la terre tombe, pour le mur qui sera la cloison de sa tombe, des potiers font sécher de la brique au soleil. Le troisième sphinx. Nemrod était un maître aux archanges pareils. Son nom est sur Babel, la sublime masure. Son sceptre altier couvrait l'espace qu'on mesure de la mer du couchant à la mer du levant. Baal le fit terrible à tout être vivant depuis le ciel sacré jusqu'à l'enfer immonde. Ayant rempli ses mains de l'empire du monde, si l'on eût dit « Nemrod mourra », qui l'aurait cru ? Il vivait. Maintenant cet homme a disparu. Le désert est profond et le vent est sonore. Le quatrième sphinx. Shrem fut roi. Sa statue était d'or. On ignore la date de la fonte et le nom du fondeur. Et nul ne pourrait dire à quelle profondeur ni dans quel sombre puits ce pharaon sévère flotte, plongé dans l'huile, en son cercueil de verre. Les rois triomphent, beaux, fiers, joyeux, courroucés, puissants, victorieux. Alors Dieu dit « Assez !» Le temps, spectre debout sur tout ce qui s'écroule, tient et par moments tourne un sablier où coule une poudre qu'il a prise dans les tombeaux et ramassée au pli des linceuls en lambeaux, et la cendre des morts mesure aux vivants l'heure. Roi, le sablier tremble et la clepsydre pleure. Pourquoi ? Le savez-vous, roi ? C'est que chacun d'eux voit, au-delà de vous, ô prince hasardeux, le dedans du sépulcre et de la catacombe, et la forme que prend le trône dans la tombe. Le cinquième sphinx. Les quatre conquérants de l'Asie étaient grands, leur colère roulait ainsi que des torrents. Quand ils marchaient, la terre oscillait sur son axe. Turas tenait le phase, Ocus avait l'Arax, Gour la Perse et le roi fatal, Ful Bélésis, sur l'Inde monstrueuse et triste, était assis. Quand Cyrus les lia tous quatre à son quadrige, l'Euphrate eut peur. Ninive, en voyant ce prodige, disait « Quel est ce char étrange et radieux que traîne un formidable attelage de Dieu ?» Ainsi parlait le peuple, ainsi parlait l'armée. Tout s'est évanoui, puisque tout est fumé. Le sixième sphinx. Cambyse ne fait plus un mouvement, il dort. Il dort sans même voir qu'il pourrit, il est mort. Tant que vivent les rois, la foule est à plat ventre, on les contemple, on trouve admirable leur antre, mais sitôt qu'ils sont morts, ils deviennent hideux. Ils n'ont plus que les vers pour ramper autour d'eux. Oh, de Troie à Memphis et d'Ectabane à Tars, la grande catastrophe éternelle est éparse, avec Pyrrhus le grand, avec Psamméticus. Les rois vainqueurs sont morts, plus que les rois vaincus, car la mort rit et fait quand sur l'homme elle monte, plus de nuit sur la gloire, hélas, que sur la honte. Le septième sphinx. La tombe où l'on a mis Bélus croule au désert. Ruine, elle a perdu son mur de granit vert et sa coupole, sœur du ciel, splendide et ronde. Le pâtre y vient choisir des pierres pour sa fronde. Celui qui, le soir, passe en ce lugubre champ, entend le bruit que fait le chacal en mâchant. L'ombre en ce lieu s'amasse et la nuit est là toute. Le voyageur t'attend de son bâton la voûte, crie en vain. Est-ce ici qu'était le dieu Bélus ? Le sépulcre est si vieux qu'il ne s'en souvient plus. Le huitième sphinx. Aménophis, Éphrée et Cherbron sont funèbres. Ramsès est devenu tout noir dans les ténèbres. Les satrapes s'en vont dans l'ombre, ils s'en vont tous. L'ombre n'a pas besoin de clé ni de verrou, l'ombre est forte. La mort est la grande geôlière. Elle manie un dieu d'une main familière et l'enferme. Les rois sont ses noirs prisonniers. Elle tient les premiers, elle tient les derniers. Dans une gaine étroite, elle a roidi leurs membres, elle les a couchés dans de lugubres chambres, entre des murs bâtis de cailloux et de chaux. Et pour peu qu'ils restent seuls dans ces blêmes cachots, méditant sur leur sceptre et sur leur aventure, elle a pris de la terre et bouché l'ouverture. Le neuvième sphinx. Passant, quelqu'un veut-il voir Cléopâtre au lit ? Venez, l'alcôve est morne, une brume l'emplit, Cléopâtre est couchée, à jamais. Cette femme fut l'éblouissement de l'Asie et la flamme que tout le genre humain avait dans le regard. Quand elle disparut, le monde fut hagard. Ses dents étaient de perles et sa bouche était d'ambre. Les rois mouraient d'amour en entrant dans sa chambre. Pour elle, Ephractéus soumit l'Atlas, Sapor vint d'Ozymandias saisir le cercle d'or. Mamilos conquit Suse, et Tantiris détruite et Palmyre, et pour elle, Antoine prit la fuite. Entre elle et l'univers qui s'offrait à la fois, il hésita, lâchant le monde dans son choix. Cléopâtre égalait les Junons éternels, une chaîne sortait de ses vagues prunelles. Ô tremblant cœur humain, si jamais tu vibras, c'est dans l'étreinte altière et douce de ses bras. Son nom seul enivré, Strophus n'osait l'écrire, la terre s'éclairait de son divin sourire, à force de lumière et d'amour effrayant. Son corps semblait mêlé d'azur. En la voyant, Vénus le soir rentrait jalouse sous la nue. Cléopâtre embaumait l'Égypte. Toute nue, elle brûlait les yeux ainsi que le soleil. Les roses enviaient l'ongle de son orteil. Ô vivant, allez voir sa tombe souveraine. Fière, elle était déesse et daignait être reine. L'amour prenait pour arc sa lèvre au coin moqueur. Sa beauté rendait fou les fronts, les sens, les cœurs, et plus que les lions rugissants étaient fortes. Mais bouchez-vous le nez si vous passez la porte. Le 10e sphinx. Que fait Sennachérib, roi plus grand que le sort? Le roi Sennachérib fait ceci qu'il est mort. Que fait Gad? Il est mort. Que fait Sardanapale? Il est mort. Le sultan écoutait, morne et pâle. « Voilà de sombres voix, dit-il, et je ferai dès demain jeter bas ce palais effaré où le démon répond quand on s'adresse aux anges. » Il menaça du poing les sphinx aux yeux étranges. Et son regard tomba sur la coupe où brillait le vin semé de sauge et de feuilles d'œillets. « Ah, toi, tu sais calmer ma tête fatiguée. Viens, ma coupe, dit-il. Ris, parle-moi, sois gai. Chasse de mon esprit ces nuages hideux. Moi le pouvoir et toi le vin, causons tous deux. » La coupe étincelante, embaumée et fleurie, lui dit. Fur, roi soleil, avait Alexandrie. Il levait au-dessus de la mer son cimier. Il tirait de son peuple orageux, le premier d'Afrique après Carthage et du monde après Rome, des soldats plus nombreux que les rêves que l'homme voit dans la transparence obscure du sommeil. Mais à quoi bon avoir été l'homme soleil? Puisqu'on est le néant, que sert d'être le maître? À quoi sert d'être calife ou mage? À quoi bon être un de ces pharaons, ébauche des sultans, qui dans la profondeur ténébreuse des temps jettent la lueur vague et sombre de leur mitre? À quoi bon être Arsès, Darius, Armamitre, Syaxar, Sétos, Dardanus, Dersilas, Xerxès, Nabonassar, Hazar, Adon? Hélas! On a des légions qu'à la guerre on exerce, on est Antiochus, Crozorès, Artaxerce, Sésostris, Hannibal, Astyage, Scylla, Achille, Omar, César, on meurt. Sachez cela. Ils étaient dans le bruit, ils sont dans le silence. Vivant, quand le trépas sur un de vous s'élance, tout homme, quel qu'il soit, meurt tremblant. Mais le roi, du haut de plus d'orgueil, tombe dans plus d'effroi. Cet esprit plus noir trouve un juge plus farouche. Pendant que l'âme fuit, le cadavre se couche, et se sent sous la terre opprimée et cherchée par la griffe de l'arbre et le poids du rocher. L'orfraie à son côté se tapit défiante. Qu'est-ce qu'un sultan mort? Les taupes font leur fiente dans de la cendre à qui l'empire fut donné et dans des ossements qui jadis ont régné. Et les tombeaux des rois sont des trous à panthères. Zim, furieux, brisa la coupe contre terre. Pour éclairer la salle, on avait apporté au centre de la table un flambeau d'or sculpté à Sumatra, pays des orfèvres célèbres. Cette lampe splendide étoilait les ténèbres. Zim lui parla. « Voilà de la lumière, au moins. Les sphinx sont de la nuit les funèbres témoins. La coupe étant toujours ivre est à peu près folle, mais toi, flambeau, tu vis dans ta claire auréole, tu jettes au banquet un regard souriant. Ô lampe, où tu parais, tu fais un orient. Quand tu parles, ta voix doit être un chant d'aurore. Dis-moi quelque chanson divine que j'ignore, parle-moi, ravis-moi, lampe du paradis. Que la coupe et les sphinx monstrueux soient maudits, car les sphinx ont l'œil faux, la coupe a le vin traître. » Et la lampe parla sur cet ordre du maître. Après avoir eu Tyr, Babylone, Ilion, et pris Delphes à Thésée et Latos au Lyon, conquis Thèbes et soumis le Gange tributaire, Ninus, le fratricide, est perdu sous la terre. Il est muré selon le rite assyrien, dans un trou formidable où l'on ne voit plus rien. Où, qui le sait, les puits sont noirs, la terre est creuse, l'homme est devenu spectre. À travers l'ombre affreuse, Si le regard de ceux qui sont vivants pouvait percer jusqu'au lit triste, au lugubre chevet, où gît ce roi, jadis éclair dans la tempête, on verrait, à côté de ce qui fut sa tête, un vase de grès rouge, un doigt de marbre blanc. Adam le trouverait à Caïn ressemblant. La vipère frémit quand elle s'aventure jusqu'à cette effrayante et sombre pourriture. Il est gisant, il dort, peut-être qu'il attend. Par moments, la mort vient dans sa tombe, apportant une cruche et du pain qu'elle dépose à terre. Elle pousse du pied le dormeur solitaire et lui dit « Me voici, Ninus, réveille-toi, je t'apporte à manger. Tu dois avoir faim, roi, prends. » « Je n'ai plus de main, » répond le roi farouche. « Allons, mange. » Et Ninus dit « Je n'ai plus de bouche. » Et la mort, lui montrant le pain, dit « Fils des dieux, vois ce pain. » Et Ninus répond « Je n'ai plus Dieu. » Zim se dressa, terrible, et sur les dalles sombres que le festin couvrait de ses joyeux décombres, jeta la lampe d'or sculptée à Sumatra. La lampe s'éteignit. Alors, la nuit entra. Et Zim se trouva seul avec elle. La salle, comme en une fumée obscure et colossale, s'effaça. Zim tremblait, sans garde, sans soutien. La nuit lui prit la main dans l'ombre et lui dit « Viens !»